Amis de Radio Occitanie et de la poésie, bonjour. Les poètes, une émission de Claude Bretin et Christian Saint-Paul. Alors cette émission sera un peu spéciale puisque ce n'est pas vraiment de poésie dont nous allons parler dans cette heure, mais d'un poète, parce que Francis Scott Fitzgerald a également écrit de la poésie,
oui,
qui est souvent absente d'ailleurs quand on regarde les anthologies, ce qui est quand même dommage,
c'est vraiment dommage,
et qu'il faudra peut-être réparer. Et ce grand auteur donc américain, qui a publié Gatsby le Magnifique, on arrive maintenant au centenaire de la publication de ce livre.
Absolument.
Et donc, nous allons recevoir Béatrice Balti, qui a écrit une très très belle biographie donc de la vie de l'auteur de Gatsby le Magnifique. Il s'agit de Béatrice Balti, donc Béatrice Balti, Francis Scott Fitzgerald, entre jazz, jean et schizophrénie. C'est un livre aux éditions Complicité, dans la collection L'Art de Transmettre. Béatrice Balti est une familière de nos émissions, puisque c'est la énième biographie qu'elle commet.
La cinquième ou sixième biographie, et que je suis venue, je crois, à chaque
Stevenson,
fois. Voilà, Stevenson, l'auteur de Peter Pan, Barry.
Voilà.
Donc après, il y a eu Conan Doyle. Après Oscar Wilde. Et donc Fitzgerald.
Scott Fitzgerald, voilà. Ce livre coûtera 22 euros. Alors, il se lit, je le dis tout de suite, il se lit véritablement comme un roman, à telle enseigne que lorsque on commence à le lire, eh bien, on n'arrive pas à le quitter. Voilà. Alors, c'est quand même un exploit de pouvoir, à ce point, retracer la vie de cet auteur, qui maintenant est un auteur mythique. On a l'air, avec ce livre, de le suivre vraiment à la trace. Et on se demande même si elle n'était pas là, faisant son enquête, pour vraiment pouvoir nous dire comment a vécu ce personnage, puisque vraiment on le suit jusque dans les détails. Ce qui demande certainement un travail de recherche important.
Oui.
Il y a des détails vraiment très scrupuleux dans ce livre qui sont vraiment étonnants, et c'est ce qui en fait aussi sa force, parce que on sent bien là que on n'est pas du tout c'est une œuvre qui est une œuvre littéraire, puisque bon, c'est dans une très belle langue, mais c'est une biographie qui est tout à fait, comment dirais-je, crédible, véridique,
oui,
dont on sent qu'elle n'est pas une biographie ou l'imagination, ce qui est le cas souvent.
Oui, hein, oui, oui.
Bon, il faut. C'est aussi un genre.
Exactement.
Voilà. Mais là, vraiment, on est dans l'intérêt de ce livre, qui se lit effectivement comme un roman, parce que quand même la vie de Francis Scott Fitzgerald et de son épouse, c'est vraiment une vie de roman.
Absolument.
Hein. C'est vraiment une vie de roman, épuisante.
Oui,
c'est à la fois très romantique. Hein,
voilà.
C'est la génération perdue.
Exactement,
hein, qui a gravé quand même la littérature mondiale.
Oui, oui, hein, oui, ouais, c'est ça.
Voilà. Et alors, comme c'est le centenaire, il y a le journal Service littéraire, qui est un mensuel donc de l'actualité romanesque, qui a publié un article sur, qui est un article de Thibaut Marat, sur justement ce centenaire de la publication de Gatsby le Magnifique, puisque à l'occasion de ce centenaire est publié un livre aux éditions Les Belles Lettres, un livre de 362 pages qui ne va coûter que 15,90 € et qui rassemble les œuvres donc de Francis Scott Fitzgerald, donc évidemment Gatsby le Magnifique. Voilà. Et paraît-il dans une très belle traduction,
hein,
qui rend compte du style heurté,
qui
est quand même la grande force
de cet
écrivain. Hein. Voilà. Alors c'est très bien que l'on puisse redonner à Gatsby le Magnifique. Alors, le grand public, il le connaît surtout pour les films.
Exactement, hein, les deux films mythiques, le premier avec Redford dans les années 70, Puis après, avec Leonardo DiCaprio, Redford est un Gatsby inoubliable. C'était déjà un film très poignant. Le second, peut-être, il y a des choses, mais par contre, il y a certains détails qui sont dans le livre, qui sont qu'on retrouve dans la deuxième version et pas dans la première. Donc en fait, je crois qu'il faut voir les deux versions, même si le meilleur Gatsby, c'est Redford physiquement. Mais il y a des choses aussi qui m'ont plu dans la deuxième version. Et c'est, voilà, on y reviendra après, parce que c'est à la recherche d'un amour perdu. Oui. Voilà.
Voilà. Alors, l'histoire de Gatsby, le magnifique, est difficilement séparable un peu de l'histoire de Francis
Scott Fitzgerald, absolument.
L'œuvre de sa vie. On voit à quel point il va y consacrer de temps, d'énergie et d'espoir.
Oui.
Cet espoir qui sera un peu déçu, on va en parler bien.
Oui, absolument.
Voilà. Mais la postérité, quand même, va lui rendre la force et de cette œuvre de génie.
Absolument.
Alors, Francis Scott Fitzgerald, le sous-titre, c'est « Entre jazz, jean et schizophrénie ». On va voir pourquoi.
Oui.
Il naît dans un état des États-Unis.
Un état du Nord, où il fait très froid l'hiver, le Minnesota, près des Grands Lacs. Et donc il va avoir une enfance très couvée parce que sa mère a perdu deux petites filles de la diphtérie. Et ensuite, juste après, il n'a qu'un an ou deux, elle va faire une fausse couche avec un enfant mort-né, donc qui est aussi une petite fille. Après, il va être terriblement couvé. Il va rester fils unique pendant des années. Et sa mère va un peu l'étouffer, en fait. Mais c'est aussi parce qu'elle a peur de perdre Francis Scott du côté de son père. Alors, c'est d'origine irlandaise. Et la mère est 100% irlandaise, le père aux trois quarts. Et le père, alors, est plus universitaire, il y a de la culture, mais par contre, c'est un homme qui est assez faible et qui n'a pas d'ambition pour son fils. L'ambition, c'est du côté maternel qu'on va la trouver.
Oui. Lui-même, son fils va... à son père, donc va lui reprocher de ce manque d'ambition.
Oui. Il va reprocher à son père son manque d'ambition, mais quand il sera adulte, il va lui rendre hommage, y compris dans Gatsby. C'est un père qu'il a admiré, mais qui n'a professionnellement, il est allé d'échec en échec et il a travaillé ensuite, étant licencié dans la boîte dans le commerce en gros de sa belle famille, quoi.
Oui. Il était agent représentant.
Oui, il était agent commercial, mais il était trop discret, il n'était pas fait pour le commerce en fait.
Oui. Alors donc, il va être marqué, l'épisode marquant de Scott Fitzgerald dans sa jeunesse, c'est évidemment l'entrée à l'université.
Princeton, qu'il idéalise. Alors ça, il a une scolarité qui n'est pas... il est bon dans les matières littéraires, mauvais dans les matières scientifiques. Donc au départ, il n'est pas pris à Princeton. Il va devoir passer un examen de rattrapage. Il va l'avoir et là, il va... être à la fois emballé par cette université, par la possibilité d'écrire pour le journal de l'université. Donc, il va être toujours très, très apprécié. Il va faire des pièces de théâtre, des histoires un peu drôles. Par contre, il décolle pas dans tout ce qui est scientifique. Et donc, au final, il ne va pas avoir l'équivalent de des quatre années, le master, le master 2 maintenant, mais en fait, c'était le diplôme universitaire de Princeton. Oui. Et c'est au moment où, en fait, où la guerre va éclater, la guerre de 14, de 14, elle a déjà éclaté, mais les Américains...
L'entrée des États-Unis dans la guerre.
Voilà, parce que les Américains ont attendu...
1917.
Ont attendu 1917 pour s'engager vraiment, quoi.
Oui. Mais cet épisode de Princeton lui permet quand même d'avoir des relations.
Absolument.
De se faire, qu'il va conserver.
Exactement. C'est un réseau qu'il va créer et des amis fidèles.
Oui.
Donc, il va avoir deux ou trois amis fidèles et puis qui vont d'ailleurs travailler plus ou moins dans l'édition, qui vont et ça c'est formidable pour lui parce que et donc voilà. Mais le monde est en train de changer quand il sort de l'université. Et d'ailleurs, il n'a qu'un espoir, vu que ses résultats sont un peu en dessous de la moyenne. Il n'a qu'un espoir, c'est partir sur le front. Il s'imagine avec une fin très romantique, mort sur le champ de bataille. Et oui. Puis, après des mois de formation dans différentes casernes, voilà, une semaine avant son départ, le 11 novembre 1918 arrive, donc il ne part pas.
Tant mieux pour nous.
Tant mieux, voilà, exactement.
Alors, il a... Ce livre également est le livre de sa vie amoureuse.
Oui, absolument.
Qui commence assez tôt.
Oui.
Hein, qui va évidemment être la vie de Zelda.
Oui, hein, ça va être rapidement donc, associé à Zelda, même s'il a un premier amour.
Un premier amour, oui.
Un premier amour quand il est justement à l'université. Une fille, c'est un peu important aussi parce que c'est une fille de milieu très riche. Et il va toujours avoir après ce sentiment de mépris, parce qu'il va entendre une réflexion du père de cette fille qui s'appelle Ginevra King, et le père le passe à la moulinette. Vous faites quoi? Qu'est-ce que vous faites?
Terrible.
Et lui, il veut être un grand écrivain, mais pour le moment, il n'a pratiquement rien écrit.
Ouais.
Il est de famille assez modeste, parce que pauvre, mais par rapport à Ginevra King, ils sont modestes. Bon, en plus, il est catholique, alors que les Kings sont épiscopaliens. Et donc, il va se sentir un peu infériorisé. Ginevra King va finalement rompre la relation, alors qu'il était fou amoureux d'elle. Et elle va épouser le fils d'un ami de son père, qui est vraiment très très riche,
même classe sociale.
Et donc il y a toujours chez Fitzgerald, son héros a toujours quelque chose, même Gatsby, parce que Gatsby est récemment enrichi, et on y reviendra plus tard, mais il ne fait pas partie des vieilles fortunes américaines comme était la famille King de Ginevra. Donc.
Oui, il y a toujours un arrière-fond quand même de ce qu'il écrit. La problématique de la classe sociale.
Absolument. Donc il était dans des endroits pour riches. Princeton était cher, donc sa mère arrivait grâce au commerce prospère de son père, elle arrivait à payer. Mais il n'était pas considéré, les autres, il était le seul de milieu assez modeste. Oui. Tous les autres étaient des. Et d'ailleurs, Gatsby, à un moment donné, il y a. East Egg et West Egg, il y a l'endroit de Long Island où c'est les nouveaux riches et l'endroit beaucoup plus prisé où c'est les anciennes fortunes, East Egg et West Egg. Voilà.
Oui.
Donc, c'est quelque chose qui va... Parce qu'il va écrire plus de 160 nouvelles aussi. Et certaines nouvelles sont absolument magnifiques, quoi. Et c'était un sujet qui va être assez récurrent.
Alors ça c'est important aussi des nouvelles parce que c'est on parle beaucoup bien entendu c'est normal de ces romans donc Gatsby
voilà
magnifique.
Donc il y a presque cinq romans
oui
presque
mais
cinq romans
il y a une œuvre peut-être beaucoup plus considérable
ah oui
sur le plan du volume
164 nouvelles
voilà. Quelles sont les nouvelles or les nouvelles aux États-Unis ça permettait à l'auteur
absolument.
De vivre
exactement elles étaient relativement bien payées
voilà.
Pour peu qu'on soit choisi par des magazines qui pouvaient les payer très très cher à l'époque ça pouvait être 1 000 $, 1 400 $ la nouvelle. Alors il fallait rentrer dans ces journaux prestigieux donc c'était le Saturday Evening Post ou des trucs comme ça et donc en fait une fois que il est plein d'énergie et d'imagination Et ces histoires vont être très vite appréciées. Et il va devenir, en fait, riche. Lui qui a énormément galéré au début, il avait dû travailler dans une agence de publicité assez minable, il avait une petite chambre dans le Bronx, après il va travailler un peu pour les chemins de fer, le Eastern Railway, pendant un été, et là tout à coup c'est le succès, alors c'est grâce à certaines nouvelles, et puis c'est son premier roman, This Side of Paradise, L'envers du paradis, 1920, donc il a terminé en 1919. Et là, c'est le succès parce qu'on estime que c'est un ode à la liberté de la jeunesse. Et tout à coup, là, l'argent commence à tomber.
Et alors, cet argent, ils vont le dépenser sur la Riviera.
Voilà, alors, très vite. Alors, après le passage à Long Island, parce qu'il passe presque 2 ans... à Long Island, c'est là qu'il va pouvoir après, il va situer Gatsby le Magnifique dans cet endroit qu'il a bien connu. C'est un endroit pour millionnaires. Donc après ça, quand il est là-bas, on lui dit, mais il y a un endroit en France qui s'appelle la French Riviera, et là-bas, vous avez la même chose en 2 fois moins cher. Et
le dollar.
Et voilà, exactement. Oui. Le dollar était quand même assez fort. Oui. Et effectivement, ils vont suivre le mouvement des Américains qui prennent un peu la suite des Anglais. Les Anglais, c'était l'époque victorienne, le médecin de la reine Victoria qui avait décrété que Nice et Menton, c'était très bien pour les malades des poumons. Oui. Voilà.
Oui. Alors là, on est à l'été 1924.
Oui.
Sur la Riviera, hein.
Alors voilà, il s'installe un peu ailleurs, puis après il commence à aller au Cap d'Antibes en fait, à Antibes, le Cap d'Antibes où il y avait beaucoup de célébrités, et puis il va faire la connaissance d'un couple de mécènes, de gens très très cultivés qui aiment les artistes.
Et qui ne quittera pas.
Non. Il y aura une fidélité, parce que au début, tout est merveilleux, parce que ces gens-là ont beaucoup d'argent, mais ce n'est pas que des riches, ils ont du goût, ils sont gentils. Ils s'appellent Gerald et Sarah Murphy. Donc, Gerald Murphy, lui aussi d'origine irlandaise. Il a fait l'université de Yale, donc il y a beaucoup de culture, et chez lui et chez elle. Alors, ils vont inviter un noyau d'Américains et aussi petit à petit des Français, comme des Français, enfin Picasso n'était pas français, mais enfin il était installé là-bas. Oui. Il y a Jean Cocteau, après Coco Chanel avait créé le numéro 5 à côté, à Grasse. Donc il va y avoir toute une série de gens célèbres qui vont s'ajouter à John Dos Passos et Ernest Hemingway, Scott Fitzgerald et Zelda, voilà. Et ça sera des dîners merveilleux, voilà, au Cap d'Antibes.
Alors ça, il était déjà marié.
Oui, absolument. Il s'est marié en 1920, au moment du, juste quelques mois, très peu de temps après son succès, son premier roman.
Et il a déjà sa petite fille,
Scotty.
Et donc ils s'en vont avec Zelda et Scotty, donc sur cette riviera, dans cette société que tu viens de décrire, qui est quand même une société très particulière, très privilégiée.
Très privilégiée. Le point, même si les Sarah et Gerald Murphy ne sont pas des snobs.
Bien décrit dans ta biographie.
Ils regardent
sont sympathiques.
Si la personne a du talent, elle est invitée à leur table.
Oui.
Voilà.
Oui. Alors là, va naître un décalage donc entre la situation de Scott Fitzgerald, qui va être passionné par le roman qu'il est en train d'écrire, et celle de son épouse Zelda, qui est quand même assez désœuvrée pendant cette période, parce qu'elle a été habituée à être le point de mire des garçons, par exemple.
Oui.
Et là, eh bien, elle a perdu d'abord... ça se situe après la grossesse.
Voilà. Elle a gardé quelques kilos. Elle ne s'ennuie.
Elle ne se retrouve plus.
Elle s'ennuie parce que son mari est très très occupé par les derniers chapitres de l'écriture de Gatsby le Magnifique. Donc elle va aller à la plage, encouragée par son mari d'ailleurs, elle va boire des pots et elle va rencontrer donc des pilotes de l'aéronaval, dont un en particulier, qui s'appelle Édouard Jozan, qui est très brillant. Ils ont à peu près le même âge, je crois qu'il y a quelques mois de différence. Et elle va tomber amoureuse parce que, voilà, son couple déjà commence à battre de l'aile. Il y a déjà eu trop d'alcool depuis l'épisode à Long Island.
Oui, on n'en a pas parlé.
Oui. Oui. L'alcool a déjà commencé à être trop important. Elle aussi boit pas mal. Scott, elle commence à devenir quand même alcoolique, vraiment alcoolique. Mais lui dit, écoute, là, sors, amuse-toi, je suis occupée. Et donc, elle va tomber amoureuse de Jozan. Ah, ça ne dure pas très longtemps, genre 3 semaines, c'est juste quelques semaines. Mais elle va, donc, Scott va s'en apercevoir. Évidemment, il est très déçu mais contrairement à ce que j'ai entendu, y compris dans d'autres radios, c'est elle qui veut divorcer, ça n'est pas... Scott ne veut pas divorcer. Et à un moment donné, elle va avaler des comprimés pour faire une tentative de suicide, aidée par les Murphy, justement, oui. Qui commencent à devenir les amis. Donc on va la tenir éveillée pour pas qu'elle s'endorme. Et après, bon... Édouard Jozan, le pilote, va lui envoyer une lettre d'adieu avec sa photo, avec beaucoup de regrets, elle va jeter les deux dans la mer. Disons que leur couple qui commençait à battre de l'aile, ça rajoutait quelque chose. Mais c'est plutôt elle qui a voulu se séparer. Scott est d'origine irlandaise, le mariage catholique, oui. Le mariage pour lui c'est sacré. Oui. Donc, il va la supplier plutôt de ne pas divorcer. Voilà, ils vont partir en Italie. C'est supposé être pour arranger leur couple. Ça ne va rien arranger du tout, d'ailleurs.
Oui, ils s'en vont en Italie, ils s'en vont à Rome, à Capri.
Voilà, à Rome Capri. Et à Capri. Oui. Et puis, bon, c'est... Donc, il a une algarade avec un policier italien qui est arrivé parce qu'un chauffeur de taxi italien lui avait demandé 3 fois le prix de la course. Et donc, il s'était révolté. Et puis, il a touché l'épaule du policier italien qu'il a très, très mal pris. Donc, immédiatement, le poste, jeté par terre, manu militari, sur le ciment de la cellule, la nuit en cellule. Et donc, c'est une très mauvaise expérience qu'il va raconter après dans Tendre et la nuit,
oui,
voilà. Dans son... Voilà.
Oui. Oui, oui. Oui, feu de tout bois, ce qui est normal, puisque c'est un écrivain. Hein,
exactement. Hein, il va beaucoup se servir de sa propre vie.
Oui, oui, voilà. Bien sûr, c'est son matériel.
Exactement.
Oui, oui, oui. Exactement. On le sent bien, c'est bien expliqué dans le livre, on suit bien ça.
Oui.
Comment des événements peuvent influencer à ce point les œuvres.
Exactement. Tendre et la nuit, d'ailleurs.
Et là, c'est vraiment... Je dirais le cas type, hein.
Oui.
Ce personnage, Francis, quand tu diras, pour ça, c'est extraordinaire.
Il va pas mal s'en servir. Oui. Et il a raison, parce que rien ne vaut les expériences
bien
de
sûr.
La vie, quoi.
Oui, oui, oui. Oui. Alors, après l'Italie, il va revenir, donc, de ce voyage en Italie. Et il sera dans quel état?
Alors c'est la sortie de Gatsby.
Oui.
C'est la sortie de Gatsby, donc voilà.
On est en avril 1925.
Voilà, avril 1925, Gatsby sort. Et alors la critique est très bonne, en fait. La critique est très bonne. Donc là, il y a l'extrait que je vais lire, donc c'est un peu sur ça.
Oui, oui.
Les ventes seront un peu décevantes par rapport à ce qu'il en attendait, parce que les deux premiers romans, Beaux et Maudits, le deuxième, donc L'Envers du Paradis et Beaux et Maudits, s'étaient vendus à plus de 55 000 exemplaires. Et Gatsby le Magnifique, ça sera 25 000.
Oui,
et il va être très très déçu parce que pour lui c'était son meilleur, ce qui n'est pas tout à fait faux. C'est le plus abouti des trois premiers.
Oui.
Donc voilà. Donc,
alors, Est-ce qu'on sait maintenant pourquoi il n'y a pas eu ce succès à ce moment-là?
Alors, non, on ne sait pas. On ne sait pas.
Le succès viendra plus tard. Planétaire.
Exactement. Le succès va. C'est à la fin des années 50, des années 60, qu'on va redécouvrir Gatsby le Magnifique. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de choses dedans. Oui, c'est pas un très gros roman.
Oui.
Mais il y a tout. Il y a même le rêve américain. Il y a
La génération perdue.
Exactement.
Hemingway aussi. Et très à la mode.
Voilà. Donc il va. Ça va devenir Gatsby, va devenir un livre incontournable. Les écoles plus les universités vont demander. C'est un livre qui va être constamment étudié. Donc il y a une moyenne de 300 000 exemplaires vendus chaque année aux États-Unis. De Gatsby,
il
aurait bien aimé en profiter. C'est toujours pareil, quelquefois les auteurs n'en profitent pas. Donc c'est devenu un livre incontournable. Et puis bien sûr, pour les autres pays, quand on est à la fac du Mirail, on l'étudie. Et pour les autres pays, il faut faire de l'anglais pour l'étudier souvent. Mais c'est les films, après, on fait découvrir cette histoire, en fait, les deux films
Redford et DiCaprio. Oui, le premier film a eu lieu en 1926.
Oui, alors le premier film, voilà, qui était un film muet.
Juste après. Ouais.
Y a eu que ça a été un peu plus intimiste, mais lui a quand même touché de l'argent en tant qu'auteur du roman. Ça lui a fait quand même gagner. Gatsby, indirectement, lui a fait quand même gagner pas mal d'argent. Hein. Mais il était déjà endetté, le problème, c'est qu'ils avaient un train de vie très dispendieux. Alors, c'est vrai qu'une maison à Antibes, etc., puis à New York, il faisait le va-et-vient, Paris, les chouettes quartiers de Paris. Tout ça, ça coûtait pas mal d'argent. Il sortait aussi. Et voilà, donc...
On peut écouter cet extrait.
L'extrait, c'est juste après la sortie de Gatsby, et c'est la réaction, en premier, c'est la réaction de son éditeur. Lorsqu'il avait lu le manuscrit de Scott Fitzgerald à l'automne 1924, Max Perkins s'était montré enthousiaste. Dans un long courrier très détaillé, daté du 20 novembre, l'éditeur lui fit part de ses nombreux éloges, ce qui, peu de temps après ses problèmes avec Zelda, mit un peu de baume au cœur de l'écrivain. Il avait, lui dit-il, autant aimé la trame du livre que l'atmosphère mystérieuse et poignante qui s'en dégageait. La qualité scénique et symbolique de l'histoire vient en partie de la manière avec laquelle elle est racontée par une personne extérieure, un témoin des événements nommé Nick Carraway. L'homme a presque 30 ans et à Long Island, il devient par hasard le voisin d'un homme appelé Jay Gatsby. Ce dernier est le richissime propriétaire d'un immense manoir à l'architecture prétentieuse. Mais jusque-là, Nick Carraway n'a jamais eu l'occasion de rencontrer cet homme. Il est vrai que Nick s'absente souvent pour aller travailler comme agent de change à New York. S'il habite une petite maison de jardinier presque invisible dans la banlieue résidentielle de West Egg, sa cousine germaine nommée Daisy Buchanan demeure, elle, de l'autre côté de la baie, à East Egg, là où les descendants de vieilles fortunes américaines, ceux dont la richesse date d'avant 1840, résident dans leur immense propriété. L'arrogant mari de Daisy, Tom Buchanan, méprise tous les nouveaux riches qui demeurent à West Egg. Petit à petit, Nick Carraway arrive à glaner quelques informations sur son mystérieux voisin, le millionnaire Jay Gatsby, de son vrai nom, James Gatz. Des fêtes somptueuses sont organisées chez Gatsby, et les gens n'ont pas besoin d'invitation pour profiter de ces soirées. Mais d'abord, qui est cet homme? Et puis, comment se fait-il qu'il soit si riche? Des rumeurs courent à son sujet. Est-il un espion allemand ou bien un bootlegger qui a fait des affaires louches depuis les débuts de la Prohibition? Lors de l'une de ces fêtes, dans le manoir d'à côté, Nick finit par rencontrer son hôte. Il a beaucoup de charme, mais il ne cesse d'intriguer Nick, qui finit par apprendre de la bouche même de Gatsby que tout cet étalage de richesse et ses soirées féeriques ne sont en fait là que pour reconquérir son ancien grand amour, prénommé Daisy. Or, il se trouve qu'il s'agit justement de la cousine germaine de Nick Carraway qui habite de l'autre côté de la baie. Chaque soir, depuis sa jetée, Jay Gatsby contemple la lumière verte qui clignote depuis l'embarcadère de la propriété des Buchanan, et il étend le bras pour capter cette lueur qui vient de chez elle. Sa quête, son rêve incorruptible, c'est l'espoir chevillé au corps de retrouver Daisy, pour que tout recommence avec elle, comme avant, lorsqu'ils s'aimaient passionnément et qu'ils couchaient ensemble à Louisville, juste avant qu'ils ne partent à la guerre. Comme jadis Scott et Zelda à Montgomery, quand ils avaient fait l'amour parce que Scott devait embarquer bientôt pour la France, avant, peut-être, de mourir sur le front. Hélas pour Gatsby, il ne peut faire revivre le passé et lorsqu'enfin Daisy Buchanan doit prendre une décision, elle finit par choisir la sécurité que lui offre son mari, pourtant infidèle, plutôt que de revenir vers celui qu'elle a passionnément aimé avant son mariage. Comme dans une tragédie de Sophocle, le dénouement du drame n'est pas la mort de Gatsby, mais juste avant, dans la suite de l'Hôtel Plaza, lorsqu'elle lui fait comprendre qu'elle ne laissera pas sa vie confortable pour le suivre. Ce jour-là, Jay Gatsby est injustement accusé d'avoir causé un accident mortel, et Nick Carraway, jusque-là assez neutre dans cette histoire, ne peut s'empêcher de défendre celui qui est devenu son ami. « C'est une bande pourrie, vous valez bien mieux que toute cette clique !» lui crie-t-il. Jay Gatsby est abandonné de tous ou presque, de tous ceux qui, durant des mois, venaient chez lui et profitaient de ses largesses, mais aussi de Daisy et de Tom Buchanan, qui ne se rendront même pas à son enterrement. Révolté et amer contre sa cousine et son mari, Nick Carraway déclare « Ces gens, Tom et Daisy, étaient des irresponsables. Ils fracassaient les choses et les gens, puis allaient se réfugier dans leur fortune ou bien dans leur vaste inconséquence ou je ne sais quel autre intérêt commun, laissant à d'autres le soin de ramasser les débris derrière eux. »
On a là toute la trame donc,
ouais, de Gatsby.
De Gatsby et de ce drame.
Oui.
Alors, ce livre offre aussi l'avantage d'avoir quelques photographies.
Oui.
Et donc là, on a le manoir qui a inspiré effectivement donc,
la deuxième version. Oui. C'est pas du tout, oui, dans la première version, ils ont pris un manoir complètement différent. Oui. Mais là, c'est le manoir du millionnaire allemand. Donc il avait des points communs avec Gatsby, c'est-à-dire que il s'appelle Max von Gerlach. Alors il changeait tous les jours de chemise comme Gatsby dans le film. Il faisait des fêtes absolument fabuleuses et il avait fait sa fortune au moment de la Prohibition. Alors on remarquera que dans Gatsby, le vrai nom de Gatsby c'est James Gatz, avec TZ, qui fait germanique, et comme Max von Gerlach, dont le père était un proche de l'empereur de l'empereur d'Allemagne. Voilà, donc...
Alors, donc, on a vu la déception donc, du tirage à cette époque-là.
Oui, hein, voilà, oui. C'est un assez bon tirage pour c'est un bon tirage pour quelqu'un d'autre, oui, mais pour lui qui attendait, oui, peut-être, oui, 80 000.
Et puis c'est vrai qu'il y a une disproportion entre la réalité de l'œuvre, ce qui,
oui,
est,
oui,
vraiment cette œuvre, et le peu de public qu'il a eu à cette époque.
Voilà, 25 000 oui, exemplaires, c'est pas mal, mais pour lui, oui, il s'attendait à, oui, 80 000.
Oui, et puis pour un État comme les États-Unis.
Voilà, exactement. Et, oui, et donc...
Et il va rencontrer, donc dans ces années 1925-1926, il va rencontrer à Paris et à la Riviera, il va rencontrer un des auteurs aussi mythiques donc des États-Unis.
Absolument.
À cette époque-là, c'est Ernest
Hemingway.
Hemingway.
Voilà, Ernest Hemingway. Donc, il le rencontre d'abord rue de l'Ambre dans le quartier Montparnasse à Paris. Et Hemingway a une très forte personnalité. Et il va... il a 3 ans de moins que Scott Fitzgerald, mais il va très vite avoir l'ascendant sur Fitzgerald, qui, lui, est très gentil, va le faire rentrer chez le grand éditeur new-yorkais où il a publié ses premiers romans, et y compris Gatsby, qui s'appelle l'édition Scribner's. Et à New York, et alors que Hemingway est dans un, chez un éditeur beaucoup plus confidentiel, et il va être assez vite légèrement méprisant concernant Fitzgerald, qui pourtant l'aide beaucoup. Voilà, et après, il va trouver un style complètement différent. Donc il fait des phrases, il utilise des mots d'origine saxonne, des phrases courtes qui martèlent, avec un rythme de des mots qui martèlent un peu ses phrases. C'est un style très différent de Scott, mais Scott va un peu s'accrocher à lui, et jusqu'au jour où il va en faire trop, et Scott va prendre ses distances avec lui. Donc voilà. Parce que et c'est là que alors Hemingway est, par contre là essaie de le recontacter, oui. Voilà, parce qu'il se dit au fond ils étaient tous les deux un peu fragiles, ils avaient tous les deux, et ils prenaient beaucoup un psychostimulant puissant qui s'appelle la Ritaline, et qui a fait des dégâts d'abord chez Scott Fitzgerald avec l'alcool, et puis ensuite chez Hemingway, qui a fini par se suicider plus tard, mais à 61 ans et demi, quoi.
Oui, oui. Voilà. Alors, il y a cette époque-là, donc il a une trentaine d'années, Scott.
Oui.
Et il est déjà un alcoolique confirmé.
Voilà, il faut voir que son alcoolisme va franchir un palier quand Zelda va commencer à avoir des drôles de réactions. C'est-à-dire qu'elle est dans une assemblée, elle va rire quand il faut pas, elle va petit à petit, elle va prendre des cours de danse parce que c'était un très bon amateur avant son mariage. Elle faisait des spectacles de pour le comté, etc. Et donc elle va faire sa maladie mentale est en marche, donc sa passion, la danse classique. Elle a plusieurs passions, mais la danse classique, elle est bonne aussi en peinture. Mais elle va le faire de manière quasi obsessionnelle. Et ce qui va se passer, c'est qu'elle va, elle va tomber amoureuse de son professeur de danse, qui est une Russe, c'est ce qu'on appelle les Russes blancs, qui ont fui le communisme en Russie, Lyubov Egorova. Et Zelda, qui est très fragilisée, va énormément travailler. Elle va faire partie des très bons élèves de Lyubov Egorova, sans pouvoir cependant rejoindre les ballets de Diaghilev, où on prenait des filles plus jeunes, parce qu'elle a 28 ans. Et donc, elle va être complètement obsédée par Lyubov Egorova, qui ne va pas d'ailleurs répondre à ses avances. Elle va faire sa crise en 1930. Alors, déjà en 1929, ça va très mal. Et en 1930, alors qu'elle va au cours de Madame Egorova, elle va complètement complètement perdue. Et c'est les amis de Scott lui disent « Bon, il faut qu'elle voie un médecin parce que là, ça ne va pas du tout, quoi. » Et elle va d'abord aller à Paris, et très vite on va l'envoyer dans une clinique spécialisée de Suisse.
C'est une tragédie, hein,
très grosse tragédie.
Alors, ça se situe dans 1929-1930, et en 1930, c'est le crash.
Ce qui est curieux, c'est que c'est en octobre 29. The Black Tuesday, crois que c'est The Black Tuesday, un mardi, je crois que c'est le 29 octobre 1929, qu'il y a l'effondrement boursier, c'est le krach boursier, c'est au moment où Zelda commence à être pas bien du tout, donc il y a à nouveau il y a en même temps la situation nationale
et la situation personnelle.
Les deux se rejoignent.
Et c'est une tragédie dans les deux à ce moment-là.
Alors lui, il dépensait beaucoup, il n'a pas perdu énormément d'argent. Mais ce qui a tout changé pour son œuvre, c'est que les gens vont, ça va être la dépression, ils vont beaucoup moins s'intéresser aux années folles et à cette décennie
qui était son terrain.
Exactement.
Ce qu'il avait envie de raconter.
Depuis l'envers du paradis, Gatsby, etc. Voilà.
Oui, et ça c'est fini, en définitive, cette société ne tourne plus sa regard vers cela.
Voilà.
C'est autre chose. Et il va y avoir donc après Zelda, on va faire le diagnostic. Oui. Du problème de Zelda qui effectivement voilà. est apparu là dans cette situation totalement décalée qu'elle avait.
Ça devenait complètement obsessionnel. Oui. Et donc là, on va donc en Suisse, ils sont assez avancés pour donc il y a des cliniques assez spécialisées pour et la schizophrénie est un état. Donc ça va être le professeur Bloiler. Voilà, ils vont être deux ou trois. Donc à l'époque, c'était des choses quand même traumatisantes, même si les cliniques étaient confortables, etc.
C'est la thérapie.
La thérapie était quand même très traumatisante. C'est les électrochocs. Et alors, à l'ancienne, hein, c'est pas comme ce qu'on fait maintenant, qui sont beaucoup plus mesurés, où il y a beaucoup moins d'effets secondaires. Et la cure de Sackel, qui, ça c'est un, Sackel est un psychiatre autrichien, et on fait baisser le sucre artificiellement pour que la personne, ça a été utilisé pendant 30 ans, pour que la personne tombe dans un espèce de coma diabétique. C'est pour la purger de ses mauvaises pensées, de quelquefois ça peut être des envies de meurtre, ou de, ce qui passe dans la tête d'un schizophrène. Alors, il prétendait avoir 65% de réussite. En fait, on pense que c'était beaucoup moins. Et puis, disons que c'était quand même très traumatisant. Il pouvait y avoir des morts. Donc, elle va... Disons que son état va s'améliorer malgré tout. Mais ça sera au prix d'un état général. Elle va prendre, avec tous les sédatifs qu'elle doit prendre, elle va être transformée physiquement. Et puis il y a des rechutes quand elle commence à aller bien au départ après 18 mois en Suisse. Il croit encore, Scott, que ça y est, que c'est. Il dit des ténèbres à l'espoir.
Oui.
Et puis en fait, ça va être une longue série d'internements où après ça va être aux États-Unis. On croit qu'elle est guérie, puis elle refait des crises. Jusqu'au jour où il y a une tragédie.
Donc ça va le suivre toute sa vie. Il va vivre toute sa vie avec Zelda et sa maladie, qui est une maladie quand même très grave, surtout à cette époque-là.
Surtout à cette époque-là, on a fait beaucoup de progrès maintenant.
Oui, bien sûr.
Mais là, à l'époque, c'était quand même des traitements traumatisants.
Oui, très traumatisants, et qui ne guérissaient pas vraiment. On était toujours sur le qui-vive quand même. Voilà. Et on sent d'ailleurs dans toute cette biographie, on sent vraiment cet état de Francis Scott Fitzgerald qui est sur la qui-vive, le temps. Il y a une angoisse permanente quand même Zelda.
J'ai fini d'espérer sur les petits chemins qui mènent au sanatorium de Zelda. Oui. J'ai perdu. Il y a un moment où il va comprendre que ça ne guérira
jamais.
Et c'est terrible aussi pour leur petite fille qui, par miracle, va s'en sortir assez bien. Alors que, parce que c'est grâce aux internats, grâce aux amis des Fitzgeralds, les Murphy, tout ça, elle va avoir une bonne scolarité. Et après, elle va défendre ses parents.
Elle a été complètement épargnée.
Aux trois quarts épargnée. Il y avait du personnel.
Ils ont mis des moyens aussi.
Alors, il écrivait des nouvelles, parce qu'il fallait payer et la scolarité de Scotty dans les écoles privées. Et l'hôpital psychiatrique en Suisse, il n'y avait aucune sécurité sociale, bien entendu. C'était toute sa poche, donc c'est pour ça qu'il était complètement épuisé de travail.
Et on voit quand même que ça devait bien être rémunéré, ces nouvelles.
Oui.
Puisqu'il arrivait à avoir ce train de vie.
Absolument. Mais lui, il va réduire ses sorties.
Oui.
Mais c'est pour payer les deux choses donc obligatoires qu'il devait payer jusqu'au jour où Hollywood lui propose de venir pour être scénariste. Et donc là, au début, il y va une première fois. Il y a encore là, la première fois, il y a encore Zelda. Elle commence à ne pas aller très bien, mais d'ailleurs, elle va vite déprimer. C'était un an ou deux avant sa crise qui va faire qu'elle va être internée en Suisse. Et alors, c'est un monde complètement différent. Lui, c'est un il a une plume romanesque. Il est là-bas, on veut du commercial. On met minimum 4 scénaristes sur un film. Pour autant, l'emporte le vent, il est le 17e scénariste sur le même film.
Oui. C'est très curieux, d'ailleurs.
Oui.
Et alors, la façon dont, dans cette biographie, ce travail est décrit, on apprend beaucoup, vraiment, on voit vraiment à quel point ils avaient quand même des moyens considérables.
Ah, c'était des très gros moyens.
Ils plusieurs, même s'ils ne reprenaient rien de leur travail.
Exactement, quelquefois c'était une phrase, une réflexion.
Ça devait être terrible quand même.
Mais c'est frustrant pour l'auteur, pour le scénariste. Terrible. On se rend compte d'ailleurs.
Fitzgerald,
c'est Mankiewicz, le scénariste Mankiewicz. Oui. Il ne va prendre que 30% de son travail, et il va lui enlever une scène qui était la scène principale.
Oui.
Et ça, il va avoir du mal à comprendre. Et après, il va même pas être pris pour 30, mais comme il est payé qu'il a besoin d'argent, il va quand même accepter toutes les propositions de Hollywood.
On voit combien la littérature est réduite quand même par les gens d'affaires, quoi.
Oui. Ah, mais ça, c'était surtout le cinéma, il fallait que ça marche et il fallait pas que ça, que ça fasse
recettes,
un flop,
quoi.
Parce que c'était,
il fallait une recette.
Et voilà, donc c'est. Donc, c'est les 4 dernières années de sa vie, ça.
Alors, il va rencontrer, là, quand même.
Il va rencontrer.
Quand tu en parlais tout à l'heure, il va rencontrer Sheila Graham.
Sheila Graham, qui est une Anglaise. Alors, de milieu. Son enfance est digne d'un roman de Charles Dickens. Et c'est une fille qui a. Elle a un beau physique. Alors, famille de juifs ukrainiens. C'est une blonde son père va mourir très jeune, son père tailleur va mourir très jeune, et sa mère va la placer dans un orphelinat pour la communauté juive dans l'East End de Londres. Et après, elle va soigner sa mère atteinte de cancer jusqu'au jour où sa mère meurt. Et là, elle trouve un travail en vendant des brosses à dents. Donc c'est une fille ambitieuse qui est aimable et qui va commencer à écrire des petits articles en Angleterre, mais qui va surtout aller, quand elle va à Hollywood, elle va être dans un journal à potins sur les artistes d'Hollywood. Et puis, ils vont tomber amoureux. Elle va tomber amoureuse de cet auteur qui était avec des yeux bleus et des cheveux blonds cendrés. Et donc, ça va être vraiment un coup de foudre. Alors que pour Scott, il n'avait pas eu de grand amour après Zelda.
Oui.
C'est la deuxième fois qu'il est vraiment amoureux depuis. On va lire le coup de foudre entre les deux, entre Scott et Sheila Graham. Donc, elle va en parler dans son livre qui s'appelle The Real Scott Fitzgerald, 30 Years Later, donc 35 ans après le vrai Scott Fitzgerald. Ce fut quelque chose d'instantané et de spontané. Nous avons dansé, restant sur la piste de danse en attendant que le morceau suivant ne commence. Les autres clients du Clover Club nous apparaissaient aussi immobiles que des peintures murales. Lorsque l'orchestre s'arrêta, nous retournâmes à regret à notre table, mais sans cesser de nous regarder. De son côté, Scott Fitzgerald, avec ce style sublime qui était sa marque de fabrique, allait aussi décrire cette rencontre dans un roman qu'il allait commencer 2 ans plus tard et qui serait intitulé « The Last Tycoon, le dernier nabab ». Les yeux de Star et de Kathleen se rencontrèrent et se mélangèrent. L'espace d'un instant, ils firent l'amour comme jamais personne n'oserait le faire après ça. Le regard était plus lent qu'une étreinte, plus urgent qu'un appel. Voilà, donc ça, c'est le coup de foudre raconté par les deux.
Alors, parce que le temps est en train de nous dévorer. Là.
Oui.
Donc, il y avait jalousie de Scott hein, vis-à-vis de Sheila Graham, qui, parce qu'il a avoué avoir eu 8 amants.
Voilà,
hein,
8 amants. Elle pense être même en dessous de la vérité.
C'est important ça, parce que ça choque Francis Scott Fitzgerald. Donc, on voit que c'est un romantique. Hein,
c'est un romantique. Et voilà. Lui-même, il n'a eu que des grands amours. Oui. Jean Evra, un amour d'adolescent qui était son grand amour. Zelda et Sheila Graham. Et il a eu entre les deux, après l'internement de Zelda, quelques très courtes liaisons, mais c'était quand même un romantique. Oui. Il avait eu moins d'aventures que Sheila Graham, évidemment.
Oui. C'est donc ce romantique irlandais, donc il savait que la vie était tragique aussi.
Absolument.
Et bon, il faut aller vers la fin. Donc, il va y avoir le retour de la tuberculose.
Oui, oui.
Qui va évidemment être un lourd handicap.
Absolument. Hein, il avait eu des premiers symptômes, puis ouais. Ça s'était mis en attente. Et puis, l'alcool a fait son œuvre. Hein, donc, il a un organisme fatigué.
Oui, oui.
Et en 1900, donc il a 44 ans. Décembre
1940.
Le 21 décembre, exactement. En 1940, avec son organisme fatigué, oui. Il a une crise cardiaque. Qui lui est fatale.
Oui, l'occlusion de l'artère coronaire, voilà. Classique. Hein.
Oui.
Et donc, il y aura le succès posthume après du dernier Nabab,
oui.
Accompagné bien sûr de Verzi le Magnifique,
oui.
Et de sa nouvelle. Et dans les années 60, ça va être un gros succès. Tout
exactement.
Ça,
hein, on va redécouvrir.
60, on va redécouvrir cette
œuvre.
Et
là, il devient très très célèbre.
À Zelda.
Zelda.
Elle va rejoindre Scotty.
Elle va rejoindre. Alors, elle va faire beaucoup de séjours en hôpital psychiatrique, d'ailleurs souvent à sa demande. Elle n'est plus que l'ombre d'elle-même. Et un beau jour, alors qu'elle doit après aller voir sa fille qui accouche de son deuxième enfant, l'hôpital psychiatrique prend feu et tous les patients qui sont au dernier étage. Vont mourir, donc il y a 11 victimes, dont Zelda qui ne va être. C'est absolument épouvantable. On va reconnaître que c'est Zelda grâce avec ses dents. Ses dents et une pantoufle.
C'est affreux. Elle meurt brûlée vive.
Brûlée vive, et comme elle avait pris beaucoup de sédatifs pour son traitement, donc elle n'a pas pu fuir.
Oui, oui. Alors elle est enterrée avec une épitaphe quand même étonnante.
C'est la dernière phrase de Gatsby, qui est inscrite sur la tombe. Ils sont réunis, donc Scott et Zelda. C'est ainsi que nous avançons, barque luttant contre un courant qui nous rejette sans cesse vers le passé. Et ça dit beaucoup de choses, parce que le passé, ce retour vers le passé, c'est exactement Gatsby qui pense qu'il peut faire revivre le passé avec son amour, mais qui entre-temps est passé à autre chose et qui ne va pas le suivre.
Donc, la tragédie, encore, romantique.
Exactement. Voilà.
Nous rappelons donc ce livre à lire absolument. On peut dire quand même que Scotty est décédé en 1986 et qu'elle a été journaliste au Washington Post.
Exactement.
Voilà. Donc, elle a récupéré quand même un peu du talent de son père.
Exactement. Elle ressemblait beaucoup à son père, d'ailleurs.
Alors, un livre à lire absolument et à offrir, c'est une très belle idée de cadeau. Béatrix Balti, Francis Scott Fitzgerald, entre jazz, jean et schizophrénie, la vie de l'auteur de Gatsby le Magnifique aux éditions Complicité. Ce livre vous coûtera 22 euros. Ainsi s'achève Les Poètes. Claude et moi, nous vous souhaitons une excellente semaine à l'écoute de Radio Citadion et nous vous disons à la semaine prochaine à 17h.